Alors, bah déjà, je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité de contribuer à cet événement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes travaux sur l'utilisation d'un concept qui est la coproduction des services écosystémiques pour comprendre les trajectoires d'adaptation des socio-écosystèmes. Et pour me replacer un peu dans le contexte et les objectifs du projet de recherche dans le cadre dans lequel j'ai réalisé mes travaux. Donc, il y a une espèce de consensus scientifique maintenant sur le besoin d'adaptation pour répondre et de transformation pour répondre aux impacts du changement climatique et socio-économique sur les écosystèmes et la qualité de vie. Et nous nous demandons dans ce projet de recherche comment est-ce que les écosystèmes peuvent être mobilisés pour l'adaptation d'un socio-écosystème de montagne qui sont, eux, particulièrement vulnérables à ces changements. Et pour cela, nous avons mis en place un processus participatif afin d'étudier les trajectoires d'adaptation du socio-écosystème de la Mège, du pays de la Mège, que je ne vais pas tellement vous détailler aujourd'hui puisque ce n'est pas tout à fait le sujet. Mais on s'est, pour le résumer rapidement, on s'est intéressé d'abord à la trajectoire passée de ce socio-écosystème, et notamment comment les écosystèmes avaient été mobilisés dans les réponses adaptatives aux événements dans le passé. Ensuite, on s'est intéressé au fonctionnement actuel en fait, de ce territoire autour des interactions homme-nature perçues par les acteurs. Et ensuite, nous avons mis en place une approche par scénario normatif qui vise à, dans un premier temps, élaborer donc avec des acteurs du territoire une vision, enfin un objectif commun à atteindre à un horizon dans le futur, donc ici 2040, et ensuite de réfléchir à comment atteindre cet objectif, donc par le biais de construction de trajectoires d'adaptation. Et notamment, on s'est intéressé aux adaptations basées sur les écosystèmes et aux leviers et aux freins pour leur mise en place. Et donc, notre objectif dans tout ça était principalement d'identifier et de décrire les mécanismes socio-écologiques qui sont impliqués dans ces adaptations. Donc, juste pour situer notre recherche, donc c'est le pays de la Mège qui fait partie de la zone Atelier Alpes. C'est une petite vallée qui contient deux communes et environ 800 habitants, qui est relativement isolée, qui vit principalement du tourisme, plutôt de niche, puisqu'il n'y a pas de station de ski à proprement parler, juste un téléphérique qui offre un domaine skiable, un domaine de hors-piste. Mais c'est aussi un territoire qui a su maintenir ses pratiques d'élevage traditionnelles. Et contrairement à beaucoup d'autres endroits dans les Alpes, on observe peu d'abandon de terres agricoles. Et ce territoire fait notamment partie du parc national des Écrins, donc avec des écosystèmes, un paysage relativement préservé. Donc, un des concepts qui est au centre de l'étude des interactions socio-écologiques, c'est donc les services écosystémiques qui comprennent donc l'ensemble des contributions de la nature à la qualité de vie des populations. Et on est parti du constat simple. Que les services écosystémiques ne découlent pas automatiquement de la nature vers les populations, mais qui nécessitent pour la plupart une intervention de l'homme pour bénéficier de ces écosystèmes. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la coproduction. Donc, il existe de multiples cadres conceptuels qui mobilisent cette notion. Et nous avons donc avec l'équipe de Sandra Laborel ici au laboratoire d'écologie alpine combiné l'ensemble de ces cadres pour arriver à décrire trois étapes principales de coproduction des services écosystémiques tout au long de la chaîne de bénéfices de ceux-ci depuis la nature jusqu'à la qualité de vie. Et la première étape correspond à des actions de gestion des écosystèmes. Façonner ou altérer les fonctions écologiques pour en tirer des bénéfices souhaités. Donc ici, on va retrouver des actions comme fertiliser, irriguer un champ, planter une forêt ou simplement protéger un espace ou des écosystèmes. La deuxième étape va consister en actions de mobilisation et d'accès physique à la nature. Donc là, plutôt une mobilisation matérielle, donc par exemple des actions pour récolter ou faire pâturer dans les prairies, ramasser des champignons ou n'importe quel autre produit sauvage, et aussi construire ou se rendre sur un site naturel afin d'en bénéficier. Et la troisième étape de coproduction consiste en actions qui permettent l'appropriation ou l'appréciation des bénéfices. Et donc là, on est plus sur, qui correspond du coup à de nombreuses actions, et des actions comme transformer des produits locaux, les vendre, les acheter, les actions qui permettent d'apprécier un beau paysage, tout simplement. Donc là, c'est clairement immatériel. Ou créer, faire de l'art à partir d'éléments naturels, par exemple. Et donc, pour toutes ces actions, on va essayer de prendre en compte l'ensemble des capitaux qui sont impliqués pour leur réalisation, donc notamment le capital social. Donc là, on va retrouver la gouvernance, les institutions, les relations entre acteurs, le capital humain qui va comprendre tout ce qui est connaissances, compétences et main-d'œuvre aussi, par exemple. Le capital naturel qui va englober tous les processus biophysiques et écologiques. Le capital financier, donc, qui a trait à tout ce qui est économique et manufacturé, qui va être toutes les infrastructures, les outils, les machines qui vont être utilisées pour bénéficier des écosystèmes. Donc, juste un exemple d'utilisation de ce cadre, de ce concept que nous avons du coup appliqué à l'étude du fonctionnement actuel du socio-écosystème du pays de la Mège. Donc, à partir d'un processus participatif où les acteurs ont pu exprimer leurs interactions avec les écosystèmes, et nous avons essayé de caractériser cette coproduction des services écosystémiques perçus par les acteurs. Et donc, nous avons dans un premier temps identifié les dimensions de qualité de vie qui étaient importantes pour ce socio-écosystème. Donc là, on va avoir la ruralité, donc, qui est en lien avec le maintien de l'agriculture, qui est important pour ce territoire. L'attractivité, donc là plutôt en termes d'attractivité touristique, et l'habitabilité qui a plus à trait à tout ce qui est vie quotidienne. Et ensuite, nous avons étudié comment est-ce que les services écosystémiques perçus par les acteurs contribuaient à ces différentes dimensions de qualité de vie. Donc, comme vous pouvez le voir ici avec les couleurs, si certains services écosystémiques comme le produit de la fauche, donc l'herbe, va contribuer uniquement à la dimension de qualité de vie de la ruralité, on va avoir beaucoup d'autres services écosystémiques qui vont, eux, contribuer à de multiples dimensions de la qualité de vie. On a aussi ensuite relié ces services écosystémiques avec les unités de paysage ou les écosystèmes qui permettaient d'obtenir ces services écosystémiques. Et donc là, on voit qu'ils reposent sur de nombreux types d'écosystèmes différents. Et donc, une nécessaire multifonctionnalité en fait, du paysage qui contribue à la qualité de vie, in fine, des populations locales. Et donc, nous avons ensuite identifié l'ensemble des actions qui sont nécessaires pour bénéficier de ces services écosystémiques tout au long de la cascade en fait, de bénéfices liés aux services écosystémiques. Donc, on va avoir toutes les actions de gestion des écosystèmes, donc toutes les pratiques agricoles, mais aussi le choix d'allocation des terres et la protection et la gestion des espaces naturels. Ensuite, on va avoir dans les actions de mobilisation tout ce qui va être encore des pratiques agricoles, donc de récolte, mais aussi tout ce qui va être accès à la nature, donc pour, par exemple, bénéficier de l'esthétique du paysage ou pour avoir des pratiques récréatives en montagne, par exemple. Et enfin, toutes les actions qui vont être liées à l'appréciation et l'appropriation donc, de ces bénéfices, donc la transformation et de la. Du marketing des produits locaux, comme la création de l'identité locale ou l'appréciation de la beauté du paysage et des expériences de la nature. Hop. Et donc, pour finir un peu sur comment on utilise Ce concept, on a ensuite essayé d'identifier l'ensemble des capitaux qui étaient nécessaires pour chacune de ces actions. Et donc là, on voit qu'il y a, selon beaucoup de différents capitaux qui vont être nécessaires pour coproduire, donc qui valident bien le fait que les bénéfices des écosystèmes n'arrivent pas par magie. Et donc ça permet de mettre en évidence l'ensemble des facteurs dont dépend une partie de la qualité de vie sur ces territoires. Donc ensuite, pour revenir au cœur du sujet, nous avons regardé comment, enfin, nous avons utilisé ce concept de coproduction dans la compréhension et la création de trajectoires d'adaptation d'un socio-écosystème. Et nous partons du constat que en réponse aux changements climatiques et socio-économiques à venir, les populations vont devoir fortement ajuster, modifier, transformer, voire créer de nouvelles pratiques. Et en fait, ces changements-là de pratiques, ils se font au travers de la réorganisation de la coproduction des services écosystémiques. Et donc, par exemple, on va avoir des changements climatiques et socio-économiques qui vont affecter directement les capitaux, comme la réduction, par exemple, des subventions qui vont avoir un impact financier pour l'agriculture, par exemple, ou des changements politiques, ou même des changements climatiques, donc, qui vont amener des vulnérabilités sur certains de ces capitaux. Mais d'un autre côté, on va avoir des leviers d'action, donc où il y aura nécessaire action de la part des communautés pour orienter l'utilisation de ces capitaux. Et donc, les changements de ces capitaux vont engendrer des réorganisations de coproduction par l'ajustement, par exemple, par exemple, les guides de haute montagne vont ajuster, enfin, ils le font déjà, vont ajuster leurs pratiques en changeant leurs courses dues aux impacts du changement climatique pour pouvoir continuer leur activité. Des transformations, par exemple, un éleveur de haute montagne va devoir changer la finalité de sa production et produire, par exemple, des fromages qui pourront lui apporter des revenus directs pour pallier, par exemple, à des futurs problèmes de subvention de la PAC, ou carrément développer de nouvelles actions, toujours en lien avec l'agriculture, pour répondre, par exemple, à une demande locale pour des produits en circuit court, donc par exemple, se mettre au maraîchage. Et donc tout ça va avoir un impact sur les bénéfices retirés des écosystèmes. Afin de maintenir la qualité de vie. Et donc, ces changements, en fait, ils sont caractérisés par des décisions et des actions de la part des populations locales qui vont permettre d'infléchir, en fait, les trajectoires. Donc, si vous êtes familier avec la notion de trajectoire d'adaptation, on va avoir ces ensembles de décisions qui vont mener le socio-écosystème vers, on l'espère, un espace adaptatif ou un espace mal adaptatif. Et donc, c'est les décisions et les actions qui vont être prises pour réorganiser cette coproduction des services écosystémiques, dans le cas d'adaptation basée sur les écosystèmes, évidemment, qui vont permettre d'infléchir ces trajectoires. Donc, deux petits exemples de comment nous avons appliqué ça à la notion de trajectoire. Donc, nous avons regardé l'évolution de la coproduction dans la trajectoire passée, donc à partir du travail de François Vindel qui a participé à l'organisation de l'événement actuel, enfin du colloque. Et nous avons pu identifier quatre périodes en fait, de changements combinés dans l'agriculture et le tourisme au sein de ce socio-écosystème qui ont induit des réorganisations de la coproduction. Donc, par exemple, des changements au niveau de l'agriculture, principalement. Donc, un changement de l'agriculture de subsistance
Excuse-moi,
vers.
Enora, il va falloir conclure, s'il te plaît, parce que le temps est écoulé.
Cette étude a permis d'identifier que les facteurs de changement ont permis d'identifier les facteurs de changement qui ont influencé la reconfiguration de la coproduction. mais notamment les reconfigurations de capitaux humains et naturels pour l'adaptation, et aussi les sentiers de dépendance, qui, donc à certains capitaux ou conjonctions de capitaux, qui vont créer des vulnérabilités pour potentiellement pour la future adaptation. Du coup, je vais passer sur le futur, je suis désolée. Donc, pour conclure sur l'utilisation de ce concept pour l'étude des trajectoires, ça permet de dégager en fait tout ce qui est relatif aux fonctions écologiques et à l'action humaine et les impacts ainsi que les impacts des changements globaux sur ces éléments. Et ça permet de prendre en compte l'ensemble des facteurs en fait qui sont impliqués dans les interactions socio-écologiques et non pas de les regarder en silo comme c'est souvent fait. Et appliqué aux trajectoires, ça permet d'identifier des fenêtres d'opportunités d'action qui sont in fine, qui peuvent être utiles à l'aide à la décision. Donc des fenêtres d'opportunités qui vont permettre d'infléchir les trajectoires. Donc les sentiers de dépendance, comme je l'ai dit, et les leviers, les obstacles à l'adaptation, donc d'identifier où agir dans le futur. Donc, je n'ai pas pu le dire, mais ce qu'on a mis en évidence sur la trajectoire future, c'est que c'est justement des problèmes de gouvernance et de relations au sein du socio-système qu'il est nécessaire de faire bouger pour pouvoir amener une transformation. Et enfin, les limites de cette approche. Donc, nous n'avons pas pu opérationnaliser cette approche directement avec les acteurs, puisque ça a été des analyses qui ont été faites a posteriori à partir du processus participatif. Par ailleurs, ça n'intègre pas l'ensemble des composantes sociales qui sont parfois importantes et qui ont été soulignées par les acteurs, puisque ça prend en compte uniquement les interactions socio-écologiques et non pas les interactions sociales entre elles ou écologiques entre elles. Et enfin, c'est une approche qui est un peu compliquée, mais bon, quand on veut intégrer beaucoup de choses, dû à la multiplicité d'éléments qu'on essaie de prendre en compte. Voilà, excusez-moi pour le temps et merci de votre attention.